Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons de la liberté religieuse. Eric Mandelakiza avec vous au micro. Josène Morissin assure la mise en onde. Le rapport annuel du département d'État américain révèle que la liberté religieuse est mise à mal dans le monde entier. Le rapport épingle plus particulièrement des pays comme la Chine, l'Iran, la Russie et Myanmar. Dans un contexte où les conflits religieux et les discriminations basées sur les croyances sont en hausse dans certaines régions, il est important de comprendre les défis auxquels sont confrontées les communautés religieuses et les initiatives qui sont mises en place pour garantir la protection de ce droit fondamental. Rejoignez-nous avec nos invités à cette discussion importante sur la diversité religieuse et les enjeux qui en découlent en Afrique. Le professeur Jean-Claude Jéréké est avec nous. Il est docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Bonsoir Jéréké.
Bonsoir Eric.
Benoît Eli Awazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Il est à Ottawa, au Canada. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir, Eric.
Nous aurons également William Johann Schmonsins, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique. Professeur Jéréké, je vais commencer avec vous. Que signifie réellement la liberté religieuse en Afrique?
Merci pour la question. D'abord, essayons de définir la liberté religieuse. Je crois que la liberté religieuse est la capacité d'avoir une religion, de croire, d'avoir une religion, de la pratiquer et de l'abandonner éventuellement si on ne s'y sent plus à l'aise. Ou bien la capacité de ne pas croire. Je crois que c'est tout ça qu'on appelle la liberté religieuse. C'est cette capacité-là de croire ou de ne pas croire. De pratiquer sa religion quand on en a une, mais dans le respect de l'ordre public.
Benoît?
Ça fait ça, mais moi je mettrais plutôt l'accent sur cette capacité, sur cette possibilité d'exprimer ses croyances, sa foi, et de pratiquer son culte, et de vivre selon les valeurs de sa foi, tout en respectant bien sûr ce qu'on appelle la laïcité, hein, tout en respectant la laïcité ici entendue comme la possibilité qu'a un État pour réglementer le vivre ensemble. Parce que la société n'est pas laïque. L'État est laïque parce qu'il doit réguler, réglementer le vivre ensemble pour que chacun puisse vivre dans la société en respectant la croyance des autres.
Benoît, comment se porte-t-elle en Afrique aujourd'hui?
Bon, je crois qu'en Afrique, de façon générale, la liberté est respectée, mais il faut quand même avouer, ces derniers temps, surtout dans les pays à majorité musulmane, où on a eu par exemple au Nigeria, pour ne pas aller loin, dans le Sahel, à la faveur des groupes intégristes islamistes, comme le Boko Haram. Le Boko Haram, ça signifie les religions non musulmanes sont interdites, ne sont pas viables, ne sont pas bonnes. Haram, ça signifie vraiment ce qui est prohibé, sont prohibés. Alors ces groupes, non seulement ils passent à la violence, ils persécutent les chrétiens, ils les tuent, ils les massacrent et ils imposent la charia. Donc il faut dire que dans certains pays, notamment le Nigeria et puis d'autres pays du Sahel, ces groupes extrémistes interdisent les autres religions autres que l'islam.
Professeur Jéréké, je voudrais vous entendre sur la même question.
Je pense que le professeur Awazi a raison de dire que liberté religieuse est malmenée au Nigeria, pour parler de l'Afrique subsaharienne. Mais selon le rapport de l'AED, c'est-à-dire l'aide à l'Église en détresse, qui est un organisme catholique, il y a eu donc un rapport en 2018 qui disait que dans neuf pays africains, la liberté religieuse était malmenée. Et le même organisme catholique a produit un rapport en 2020, parce que c'est chaque deux ans qu'il produit un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Donc en 2020, l'AED a dit que ce n'est plus 9 pays africains, mais 12 pays africains. Et parmi ces pays africains, il y a la majorité, ce sont des pays de l'Afrique blanche, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Vous voyez, donc ce sont ces pays-là, d'Afrique du Nord, où majoritairement la liberté religieuse est mise à mal. Parce que quand on prend en Afrique subsaharienne, hormis le Nigeria, des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'autre Congo, en général, je pense que la liberté religieuse est respectée. Voilà, elle est respectée.
Est-ce que vous comprenez la démarche des États-Unis qui produisent chaque année un rapport sur la liberté religieuse?
Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est bon qu'il y ait des alertes comme ça. Parce que l'homme, c'est un tout. Hein. L'homme, ce n'est pas seulement le manger, le boire. Hein. L'homme, il a aussi une dimension spirituelle. Vous voyez, donc, je crois que les hommes ont le droit de croire et de pratiquer leur religion. Et quand justement il y a une violation de ces droits-là, il faut faire quelque chose, il faut s'en émouvoir, il faut attirer l'attention des pouvoirs publics. Donc je pense que c'est une bonne chose que de temps en temps de faire l'état, n'est-ce pas, des lieux à propos de la liberté religieuse.
Benoît,
je pense que c'est tout à fait intéressant, non seulement pour réguler la paix dans le monde, mais aussi, comme dit le professeur Jean-Claude Jean-Riquez, il faut veiller à ce que l'homme ait son droit. Effectivement, la dimension spirituelle de l'homme, souvent on le confond seulement à un autre, bon, à un animal comme les autres, qui mange, qui se reproduit ou autre, mais la dimension religieuse, spirituelle, pourquoi elle attire des tensions? Elle attire des tensions dans le monde aujourd'hui, même quand vous voyez les tensions politiques, elles sont toujours mélangées, elles sont toujours maculées par les convictions religieuses. Notamment, il faut le dire, dans la géopolitique mondiale, il y a les affrontements entre les pays à majorité musulmane et chrétienne, notamment parmi les grandes religions, parce qu'il y a des enjeux politiques de pouvoir et de domination du monde, mais aussi, il y a aussi les enjeux du sens de la vie. Les questions, la religion est là pour se prononcer sur le sens de notre vie sur Terre. C'est pourquoi elle est viscérale, c'est pourquoi elle est passionnelle. Hein? Alors, le rapport comme celui des États-Unis, s'il est fait, c'est pour alerter les nations du monde sur deux choses, notamment le droit de la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté religieuse, mais aussi dégager l'espace pour que chaque religion ait le champ libre pour vivre sa foi. Parce que la foi, c'est ça la spécificité et puis la force des religions, ou leur faiblesse, si on peut dire, c'est qu'elles se prononcent sur le sens global de notre vie. Que faisons-nous sur Terre? Où, d'où venons-nous? Où allons-nous? Et curieusement, ces questions, on appelle ça les questions ultimes, eschatologiques, ont des répercussions politiques. Et c'est tout à fait normal, une grande puissance comme les États-Unis se prononce, passe des rapports méticuleusement élaborés, pour alerter la vigilance à la fois intellectuelle et politique des nations du monde. Parce que la religion, comme j'ai dit, l'État est là pour favoriser le vivre ensemble, mais les sociétés ne sont pas laïques, parce que les sociétés sont habitées par des gens qui ont leurs convictions philosophiques et religieuses. Et tout le défi revient à l'État pour organiser justement cette diversité des croyances, des religions et des fois.
J'ai posé la même question au porte-parole de langue française et du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique, William Johann Schmontzins. Pourquoi, justement, les États-Unis s'intéressent sur la liberté religieuse? Je vais revenir sur le porte-parole du département d'État. Professeur Jereke, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les individus et les communautés en Afrique en matière de liberté religieuse? Là, je parle des dérives.
Oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai envie de dire que la liberté religieuse, c'est un droit, ça fait partie des droits de l'homme, mais la liberté religieuse ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir le courage de parler des dérives hein, dans certaines communautés religieuses. Je crois que, d'ailleurs, tout à l'heure, avant notre émission, on a parlé de ce qui s'est passé au Kenya il y a quelques jours, hein, avec ce bilan, n'est-ce pas, macabre de 200, c'est pas 26 personnes qui sont mortes. Vous voyez, il y a des dérives. Parce qu'on a des gens mentalement dérangés, hein, des gens qui s'improvisent leaders hein, de sectes, de mouvements religieux, voilà, qui conduisent des gens, comment on dit ça, fragiles, des gens désespérés, qui les conduisent à la mort. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un exemple de dérive. Vous voyez? Et donc, je pense que l'État, malheureusement, a démissionné. Parce que, bon, on voit dans nos pays aujourd'hui hein, des églises qui poussent comme des champignons. Hein, et quelqu'un disait d'ailleurs qu'en Afrique, on a plus d'églises que, n'est-ce pas, d'entreprises, de bibliothèques. C'est vrai. Hein, malheureusement, c'est vrai. Vous voyez, donc, il y a ces gens-là qui se lèvent comme ça un matin et puis qui disent qu'ils sont prophètes, ils sont apôtres. Et il n'y a pas de contrôle. Hein, il n'y a même pas d'enquête de moralité sur la vie de ces gens-là. Vous voyez? Et voilà, la conséquence, c'est ce qui est arrivé au Kenya. C'est-à-dire, bon, un matin, on va apprendre que, voilà, 200, 300 personnes sont décédées. Parce qu'il y a un individu, voilà, qui leur a raconté des balivernes. Donc, il y a ça. Deuxième dérive, ce que j'ai constaté dans nos grandes villes aujourd'hui, comme Kinshasa ou Abidjan, c'est qu'il y a des églises qui sont construites un peu partout, hein, de façon anarchique. Parce que, normalement, dans une ville normale, on ne construit pas un lieu de culte n'importe où, vous voyez. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui, bon, pour des raisons pécuniaires, créent des églises, hein, et toute la nuit vont, n'est-ce pas, chanter, crier, chasser le diable, hein, alors que le pauvre citoyen, il a travaillé toute la journée, il veut se reposer, il ne peut pas se reposer, vous voyez. Donc voilà un autre exemple de dérive. Et malheureusement, l'État ne fait rien pour arrêter ça.
Merci Jean-Claude. Nous avons le porte-parole du département d'État, c'est William Johann Schmontzins qui justement justifie pourquoi les États-Unis s'intéressent à la liberté religieuse. Suivez.
Depuis 1998, les États-Unis ont fait ce rapport sur l'état de la liberté religieuse partout dans le monde. En fait, le rapport a été créé par une loi américaine. Ce rapport fournit au gouvernement et aux législateurs, aux activistes de droits humains, aux communautés religieuses et aux citoyens partout dans le monde, un outil pour mieux comprendre la situation de la liberté religieuse dans leur pays et dans d'autres endroits dans le monde.
Le rapport a-t-il observé une évolution positive ou négative en matière de liberté religieuse en Afrique par rapport aux années précédentes?
Comme l'Afrique est un continent très varié, ça dépend de pays en pays et de région en région. En général, partout dans le monde, on a constaté que cette année, dans le rapport de cette année, il y a une tendance inquiétante que il y a plein de gouvernements partout dans le monde qui ne remplit pas, qui ne fait pas leur devoir, par exemple, pour le point de vue des obligations internationales pour la liberté religieuse. Il y a des gouvernements partout dans le monde, et c'est une tendance croissante, qui ne protège pas, par exemple, leur minorité religieuse et qui ne suivent pas leur propre loi. Alors, les tendances mondiales sont troublantes.
Et quels sont les types de violations identifiées?
Il y a des violations qui se font par des acteurs étatiques et non étatiques. Il y a bien sûr des régimes totalitaires, autoritaires, qui restreignent la croyance religieuse et la pratique religieuse. Il y a des gouvernements qui font une promotion de haine contre des groupes de croyants pour des raisons politiques ou parce qu'ils sont minoritaires, par exemple. Et il y a des lois contre le blasphème, par exemple, qui sont utilisées pour harceler ou opprimer ceux qui ont des croyances qui diffèrent de la majorité. Il y a aussi des acteurs non étatiques qui sèment la haine contre les membres de d'autres religions, d'autres fois, et qui font de la discrimination. Et ce qui est très inquiétant, c'est que les gouvernements, on a remarqué une tendance mondiale que les gouvernements ne protègent pas leur minorité contre ces acteurs non étatiques.
Benoît, dans quelle mesure des conflits religieux sont-ils liés aux conflits politiques et ethniques sur le continent africain?
Oui, grande question, et même j'élargirai votre question, Eric, au sens où, en gros, quand vous voyez les faiblesses politiques des États post-coloniaux en Afrique, même certains analystes, et c'est ça ma position, montrent que, bon, la gestion chaotique de la post-colonie fait que l'État n'a pas la force de créer un minimum d'espace public où les diversités peuvent s'expliquer. Alors du coup, en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas, en moins subsaharienne, ce n'est pas la liberté religieuse qui manque. C'est plutôt, il faut que les États soient suffisamment forts pour réguler le vivre ensemble. Parce que la religion aujourd'hui devient de plus en plus l'opium du peuple. Vous voyez, quand on n'a plus rien à manger, quand on n'a pas de travail, quand effectivement les conflits ethniques en Afrique sont là, aussi bien dans les églises que dans les États, ou alors le dernier recours devient Dieu. Mais quel Dieu? Ça devient l'opium du peuple. Vous voyez? Donc, l'intrication entre le religieux et le politique fait que la question africaine devient très grave et très mouvante et très perplexe. Parce que quand l'État n'est pas là pour faire le vivre ensemble, pour présider ou vivre ensemble minimal où chacun peut s'exprimer, alors la religion devient omniprésente. Elle devient omniprésente et elle est instrumentalisée. Combien de présidents africains ont leur propre pasteur de la cour hein? Aujourd'hui, même dans les pays comme le Congo ou ailleurs, vous allez voir l'intrication entre les questions politiques et religieuses. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc moi, ce qui m'inquiète plutôt en Afrique subsaharienne et postcoloniale, c'est cette religion opium du peuple où Dieu, les croyances religieuses sont instrumentalisées pour des raisons ethnopolitiques. Et ça, c'est bien vu de votre part, Eric. Donc, c'est l'intrication, le mélange explosif entre l'ethnie et la politique, et à la faveur de la crise, de la misère sociale, il faut le dire. où les dirigeants ils volent les affaires, ils vont investir ailleurs. Il faut qu'en Afrique aujourd'hui, c'est plutôt la religion opium du peuple qui prend la place partout et qui devient maintenant facteur de troubles.
Professeur Jéréké, faut-il que les traditions religieuses africaines soient, disons, incluses dans le débat sur la liberté religieuse?
Les traditions religieuses africaines?
C'est ça.
Oui, pourquoi pas, parce que les religions traditionnelles africaines, quand on les regarde, ce sont des religions qui ont toujours, comment dire ça, eu pour objectif la cohésion sociale, l'harmonie entre les communautés. Donc je pense que leur apport est précieux. Elles peuvent apporter beaucoup, justement, au vivre ensemble, dont parlait tout à l'heure Benoît. Mais je voudrais aller plus loin, prendre le problème par un autre bout. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un candidat, Ouattara, n'est-ce pas, a fait croire, faute d'arguments pour convaincre, n'est-ce pas, les gens, a fait croire aux gens du Nord, où il y a une majorité de musulmans, que voilà, les musulmans étaient discriminés, qu'en Côte d'Ivoire, on ne voulait pas qu'un musulman soit chef de l'État, alors que ce n'est que nulle part dans la constitution ivoirienne. Vous voyez, mais c'était un argument qu'il a utilisé pour mobiliser les musulmans derrière lui. Vous voyez. Donc, je crois qu'il y a cette tendance à instrumentaliser la religion en politique. Et je pense qu'il faut faire attention. Nous devons tous faire attention, nous devons être vigilants. Parce que... Ce n'est pas ça qui doit être. La religion n'a pas à être instrumentalisée par des petits politiciens et je dirais la politique non plus. Les deux, c'est vrai, travaillent pour l'homme, pour que l'homme soit debout, mais je pense que il faut éviter vraiment le mélange des genres. Il faut éviter ça. Et c'est quand même pitoyable que des gens, parce qu'ils n'ont pas d'argument, vont utiliser la religion pour, n'est-ce pas, accéder au pouvoir. C'est tout ça lamentable.
Benoît, comment les différentes religions en Afrique peuvent-elles mieux coexister et collaborer dans un esprit de tolérance et de respect mutuel?
Bon, moi je pense que, comme vient de dire Jean-Claude, non seulement la question que vous avez posée des religions traditionnelles africaines, mais c'est la question de base, Eric. C'est-à-dire, les religions... venus avec l'esclavage, mais la colonisation, aussi bien l'islam que le christianisme, bon, l'Afrique a toujours eu ses religions. Et comme vous avez vu, c'est un débat énorme qui divise les Africains. Parce qu'il y a des gens qui disent que le malheur de l'Afrique, c'est les religions importées de l'extérieur. Donc, alors, rapidement, comme vous avez dit, je trouve trois exigences, Eric. Premièrement, l'exigence théologique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un chrétien ivoirien, congolais, camerounais, burundais, c'est quoi être chrétien ivoirien, africain, à partir d'une religion traditionnelle africaine? Qu'est-ce que la révélation chrétienne apporte comme changement, comme obligation de choix par rapport à nos religions traditionnelles africaines? C'est une question qui n'est pas toujours prise au sérieux, aussi bien par les autorités ecclésiales que leurs théologiens. Ça, c'est un. Deux, et pour qu'il y ait ce dialogue entre les religions traditionnelles africaines, qui sont les religions matricielles originaires et les religions importées de l'extérieur dans une situation de colonisation, de domination esclavagiste ou coloniale, il faut aujourd'hui, comme vous faites là l'émission que nous faisons, c'est pour mettre les gens au travail. Pas chez nous, en Afrique, comme j'ai dit, avec l'absence d'État, l'inexistence de l'État, la paupérisation des grandes masses, la pensée elle-même n'est plus valorisée. Les gens vont te dire, la pensée, c'est ce que je mange.
Le troisième point, il nous reste quelques secondes.
Les politiciens, dans leur grande majorité, instrumentalisent les religions pour régner sur leurs esclaves qui sont déjà agonisants par la famine, la pauvreté et l'ignorance. Donc, pour qu'il y ait une connaissance pacifique, au contraire, Eric, il y a question d'une exigence intellectuelle et théologique. Parce que plus on avance, plus on voit que chez nous, comme je l'ai déjà dit, le vide de l'État, c'est que bon, les gens...
Merci Benoît pour votre contribution. Merci au professeur Jean-Claude Géréquet. C'est la fin de cette édition de Dialogue des religions consacrée à la liberté religieuse en Afrique et dans le monde. Merci pour votre contribution, votre participation. Joselle Morissin.